BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est parti pour la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne bien évidemment jusqu'à midi et on commence cette nouvelle heure par l'actualité éco avec Claire Checaglini ce matin.
BFM Business, l'info éco.
Le dialogue va-t-il tourner court à Matignon? Aucun ordre du jour précis n'a été donné pour la réunion entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, veut donc expliquer à la Première ministre en quoi sa réforme des retraites constitue une impasse. Mais d'ores et déjà, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, et le président du Modem, François Bayrou, assurent qu'il ne sera pas question de report de départ de l'âge du report de départ à la retraite à 64 ans. Et en attendant cette ouverture des négociations entre gouvernement et syndicats la semaine prochaine, ce mercredi est le 23e jour de grève reconductible à la SNCF. 20% des TGV sont toujours annulés, ainsi qu'un tiers des intercités et un quart des TER. Perturbations également dans le trafic aérien avec une baisse de 20% des vols à Orly et Marseille-Provence. UBS, la première banque helvète, rappelle son ancien directeur général. Sergio Ermotti sera en charge de la méga fusion avec le Crédit Suisse numéro 2 du secteur dans le pays. L'actuel président du réassureur Suisse Re avait redressé UBS après la crise financière de 2008. La nouvelle de son retour à la tête d'UBS a fait grimper l'action de la banque aux alentours de 2,5 ce matin. Faute d'avoir réussi la cyberdestruction de l'Ukraine, la Russie s'en prend désormais à l'Europe tout entière. C'est ce qu'indiquent les experts en sécurité numérique de Thales. Ils viennent de publier un rapport aujourd'hui détaillant notamment la résistance de Kiev. Au début du conflit, la Russie a attaqué des centrales énergétiques, des infrastructures de télécom et des objectifs militaires grâce à des virus probablement créés spécialement pour l'occasion. Moscou a ensuite visé l'Europe et notamment la France via le site de l'Assemblée nationale. Pas prêt qu'à enregistrer des résultats records. L'an dernier, le leader français des traitements de déchets a fait grimper son chiffre d'affaires de 20%. Il a atteint 2,5 milliards d'euros. L'entreprise construit actuellement 5 nouvelles usines en France. Paprec emploie aujourd'hui 13 000 salariés dans une dizaine de pays.
Merci beaucoup Claire. Claire Checaglini, toutes les heures ce matin pour suivre cette actualité économique. Et nous tout de suite on rejoint les marchés actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et plus précisément la salle de marché de Ports-en-Part où on nous attend Henri Tasseau. Bonjour Henri.
Bonjour.
Que se dire de cette tendance haussière toujours?
Oui, oui, c'est un fait. Hein. Le CAC, l'indice phare, est en hausse de plus de 1% au moment où l'on parle. Bon, les volumes sont pas très étoffés tout de même. Hein. On est à 500 millions autour. Ce sont des volumes, on va dire, modérés. On a vu que la séance de baisse de ces derniers jours était beaucoup plus importante en volume. On est à quasiment 5 milliards. Hein. Donc, en fait, oui, on est bien orienté. Qu'est-ce qui anime les marchés? Bon, c'est peut-être les propos un petit peu rassurants qu'on reçoit sur le secteur bancaire, le secteur financier. Ça vient d'une part du vice-président de la Fed, Michael Barr, qui a donné des indications concernant un secteur bancaire qui ne serait pas en crise en fait, hein, donc en circonscrivant peut-être les problèmes aux quelques banques là, dont on a parlé dans l'actualité, mais voilà, sans extension. Et puis sur le marché européen, ben une surprise, hein, c'est le retour de Sergio Monti à la tête du BS pour orchestrer en fait la reprise de Crédit Suisse. Voilà une nouvelle qui est plutôt appréciée par les marchés et qui participe probablement au retour dans le vert des bancaires sur l'indice parisien, donc des valeurs qui avaient quand même pas mal souffert ces dernières séances. On voit que BNP, Général et Crédit Agricole sont en hausse de plus de 1% là, au moment où on échange.
Voilà donc quelques idées générales. Après, il y a quelques dossiers qui méritent d'être regardés, dont Atos.
Alors, c'est oui une information à confirmer, mais il semblerait que l'attrait d'Airbus pour la filiale d'Atos, Evidian, dans le domaine de la cybersécurité, soit toujours réel, hein, mais pas aux conditions que souhaiterait Atos. C'est-à-dire que, en fait, Atos propose d'investir 1,2 milliard dans sa filiale pour 30% du capital, mais souhaite conserver le contrôle de cette société. Airbus finalement dit que le prix est trop élevé et que pour ce prix-là, elle préfère avoir le contrôle de la société. Donc voilà, il y a une situation de blocage qui est finalement probablement l'explication de la forte baisse du titre, voilà, qui perd 8% là. Il fait un plus bas au moment où on échange là.
Voilà donc pour Atos, et puis un petit mot de Trigano également.
Alors c'est la bonne surprise, la bonne nouvelle hein, pour les valeurs moyennes aujourd'hui dans les publications. Enfin, la publication est arrivée hier soir après le marché et on découvre que finalement le marché du camping-car est toujours en croissance assez consistante. Hein. Sur le deuxième trimestre, la société a réussi à finalement obtenir les châssis de la part de ses fournisseurs, hein, ce qui faisait défaut sur le premier trimestre, donc a pu livrer pas mal d'unités, donc ce qui amène une croissance à deux chiffres sur ce produit phare du groupe, hein, on est en croissance de quasiment 14%, et les perspectives sont toujours aussi intéressantes et importantes, puisque à l'issue de ces grands salons et de ces rencontres avec les différents réseaux de distribution et les clients finaux, eh bien, le message de la société, c'est que la demande est toujours forte. Voilà. Donc, ils nous promettent en fait une accélération de la production dans les mois qui arrivent, et ce qui donc préfigure encore une très belle année pour Trigano. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les ratios finalement de valorisation de cette société restent très très abordables. Ça se paye en PE, hein, 6,8 fois le résultat attendu pour août 2023. Vous voyez, c'est quand même dans le contexte actuel plutôt pas cher et donc à mettre à profit. En tout cas.
Merci beaucoup Henri Tassot et Porzampar qui nous accompagnent ce matin sur l'antenne de BFM Business. Tout de suite, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Hervé Gouletker et Ronan Blanc. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous les deux.
Merci d'être au rendez-vous. Hervé pour le cabinet Accuracy, Ronan pour la financière Arbevel. Ce qui préoccupe tout le monde, on le voit encore dans les commentaires, ce sont les banques, encore et toujours les banques. Est-ce que, voilà, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, que la poussière est peut-être un peu retombée, est-ce qu'on peut dire oui, il y a un problème bancaire ou pas, Hervé?
Alors, c'est compliqué de répondre. Le secteur bancaire est jamais d'une lisibilité terrible. Donc, enfin, il y a deux oppositions. Liquidité ou solvabilité spécifique ou générale. Moi, j'ai envie de dire que pour le moment, on a été confronté plutôt à une crise de liquidité. C'est tout à fait vrai aux États-Unis. Et je pense que la facilité mise en place par la Banque centrale aide en la matière. À ce titre-là, on dirait liquidité est spécifique côté américain, et cela rassure. Du côté européen, c'est une crise, je parle du Crédit Suisse, d'un genre particulier. Parce qu'une crise bancaire, habituellement, c'est l'apparition d'une perte, on ne sait trop où, à l'actif de la banque, qu'on n'avait pas prévu. Et Crédit Suisse, ça a pas marché.
Et qui, du coup, entame la confiance.
Voilà, entame la confiance, il y a des dépôts qui s'en vont, et donc liquidité. Et puis, si ça va de plus en plus mal, solvabilité. Dans le cas de Crédit Suisse, c'est une crise d'un genre particulier, c'est un environnement donné, c'est-à-dire il y a eu l'histoire américaine, il y a tout le passé de Crédit Suisse avec toutes les turpitudes que l'on connaît, et puis un moment, une phrase maladroite d'un actionnaire, tout ça se cristallise et on arrive à la reprise par UBS. Donc c'est quand même du particulier. C'est pas vraiment de la liquidité, même si ça a joué un peu, mais il me semble que à là où on en est aujourd'hui, c'est de la liquidité en général et du spécifique. Donc ça rassurerait, mais ça rassurera tant que l'activité économique tiendra et qu'on ne va pas basculer vers un problème de solvabilité. Et donc il faut faire un pas en arrière, hein, vers l'amont, et se dire: cette foutue question de l'inflation et l'attitude des banques centrales, quel risque ça nous fait courir du côté de la croissance? Et c'est là qu'après on revient sur le problème bancaire. Mais donc aujourd'hui, c'est le couple inflation-croissance qu'il faut qu'on regarde. On se réintéressera aux banques derrière. Et sur ce couple inflation-croissance, on le sait tous, c'est drôlement dur d'avoir une vision claire. Donc chacun a son petit point de vue sur la chose. Quand vous prenez les prévisions des deux grandes banques centrales, Fed et BCE, ben, les prévisions de croissance sont quand même pas terribles. On voit bien que ramener l'inflation vers les 2%, ça va être compliqué. Donc, est-ce que les taux vont s'arrêter à peu près au niveau où on est ? C'est ce que le marché pense. Ou alors, est-ce qu'il faudra les remonter plus ?
Bon. Vous, à la financière Arbevel, qu'est-ce que vous vous dites ? Parce que bon, il y a quand même eu un petit moment de panique chez les banquiers, etc. Et puis, on voit que sur le marché de la dette subordonnée bancaire, on est vraiment dans... un peu dans la machine à laver, quoi. Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses ?
Le moteur principal des banques, c'est le crédit. Le carburant, c'est la confiance. Donc, clairement, il y a un sujet. Les Suisses ont réglé un peu à leur manière le problème crédit suisse. Finalement, en en créant d'autres. En Europe, on est plutôt content d'avoir une réglementation relativement dure et une supervision de la part de la BCE qu'on n'a pas dans la même échelle aux États-Unis, donc ils l'ont payé par certains côtés. Ce qui est certain, c'est que le crédit bancaire s'est déjà resserré depuis mi-2022. Donc c'est pas une nouveauté. Mm-hmm. Par contre, les éléments qu'on a eu récemment, notamment concernant Crédit Suisse, va accélérer ce processus et donc va amener un refroidissement plus significatif de la croissance. Mais ça revient aussi à du resserrement monétaire. Donc quelque part, c'est peut-être aussi du travail en moins que les banques centrales auront à faire dans les prochains mois. Donc le marché a tendance à voir le verre à moitié vide, on a plutôt envie de le voir à moitié plein. Donc il y a un sujet, mais objectivement, le tissu bancaire de l'Europe continentale est plutôt bien armé pour absorber ce type de choc. La difficulté, c'est quand on a une succession de chocs. Il y a plus un sujet sur l'immobilier commercial, en fait, en Europe, qui touche principalement les banques d'Europe du Nord et un petit peu par effet de ricochet l'Europe continentale et les zones moins de mesure, la France.
Malgré tout, on comprend bien les implications que ça peut avoir sur le crédit, effectivement sur nos banques centrales. Et puis, certains l'ont noté, dans les précédents, par exemple en 2008, il y a eu des délais. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais entre les premières alertes et le gros de la crise, qui était d'une certaine longueur. Et là, tout s'est un petit peu raccourci. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise financière ?
Une crise financière ?
Parce que la dernière fois, il y en avait une. Enfin, il y en a eu une. Est-ce que là, ça couve ?
Alors, les éléments de la crise financière, il faudrait les déterminer. Là, on a parlé de l'élément bancaire.
Mais dans l'élément bancaire, vous distillez un peu de crédit, un peu de banque centrale, un peu de croissance. Donc voilà, après, on peut...
Sur l'élément bancaire, aujourd'hui, on ne voit pas une crise.
D'accord.
Par contre, on a l'impression que l'appétit pour le risque des banques commerciales va se ralentir. Et donc, c'est vrai que ça n'envoie pas un bon message sur l'activité économique. Et là, on peut avoir un ricochet sur l'autre élément qui sont les marchés de capitaux. Alors, avec juste une parenthèse en la matière, faut pas oublier que l'économie européenne est très largement financée par le crédit bancaire. Donc, chez nous, c'est plutôt la question bancaire qui va être importante. Aux États-Unis, c'est plus financé par les marchés. Et c'est donc de ce côté-là qu'il y a problème. Moi, j'ai l'impression que si on veut mesurer le risque sur les marchés de capitaux américains, la principale variable à regarder, ce sont les taux d'intérêt à long terme. Alors, ils étaient montés, là, ils sont redescendus. En gros, un taux à 2 ans a perdu une centaine de points de base, du point haut à son point bas, un taux à 10 ans de 50 centimes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a une volatilité extrêmement forte sur le marché obligataire, sur les taux longs. Et donc, on ne sait pas bien où on va. Mais imaginons que l'on ait une remontée des taux longs. Imaginons qu'on aille vers 5%. Allez, sur un 2 ans, sur un 10 ans. Finalement, c'est ni plus ni moins que le taux des fonds fédéraux aujourd'hui. Dans un contexte où la croissance paraît moins solide, la combinaison de ces deux éléments serait dangereuse pour les marchés actions. Par les taux longs, vraisemblablement, vos multiples de capitalisation baisseraient. Et puis, par un effet croissance pas terrible, vous reverriez à la baisse vos perspectives de profit. Et les deux ensemble, ça serait embêtant. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la croissance d'une part et la volatilité des taux d'intérêt.
Aujourd'hui, pas de crise financière, mais voilà.
Il faut être attentif.
Il y a des clignotants à surveiller. Vous partagez ce sentiment aussi ou pas?
La vraie différence par rapport à 2008, c'est que le risque de contamination à l'économie réelle est plus limité. Il est plus limité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les mêmes excès de crédit. Si on se souvient, en 2006-2007, les fusions-acquisitions, c'était jusque-là. Les ménages aux États-Unis étaient propriétaires de 2, 3, 4 biens. C'était vraiment la surenchère à qui allait se leverager le plus. Depuis 2008, on enchaîne quasiment une crise du siècle tous les 4 ans. Donc les acteurs économiques, notamment les entreprises, jouent de prudence. Et notamment en Europe. En Europe, on a auto-créé la crise de la dette souveraine de 2012. Les chefs d'entreprise, ils s'en souviennent. Donc ils maintiennent du cash au bilan. Mmh. Ils ont profité des 2 années post-Covid de reprise plutôt pour se désendetter et rallonger la maturité moyenne de leur dette. Donc en fait, on n'a en plus pas de mur de dette. Donc je ne suis pas en train de dire que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Mais en tout cas, ce risque d'effet de second tour sur la croissance est plus limité de ce point de vue-là. Alors oui, le canal du crédit est même un petit peu grippé côté banque, c'est-à-dire que toutes ces fameuses dettes subordonnées que vous évoquiez tout à l'heure, il va falloir les refinancer à un moment donné. Donc il y en a beaucoup qui sont perpétuelles. Donc on va se rendre compte que le perpétuel, ça a un sens, c'est-à-dire qu'on va pas les rembourser à la première date anniversaire. Donc nous, on a invité à la prudence nos investisseurs depuis déjà de nombreux mois sur cette thématique. Mais en tout cas, le marché de la dette listée n'est pas fermé en Europe. Mmh. On continue à avoir des émissions à un rythme régulier et qui s'intensifie, et une volonté des investisseurs de redéployer des liquidités, c'est-à-dire qu'ils ont redécouvert la classe d'actifs obligataires maintenant qu'elle génère un peu plus de rendement. Donc il faut juste croiser les intérêts entre les deux familles, entreprises et investisseurs d'un côté, pour arriver à un terrain d'entente sur le taux de rendement. Mais même si les rendements sont un peu plus élevés, la plupart des business sont plutôt résilients sur la durée et peuvent encaisser aussi des taux plus élevés. On n'est pas sur des taux usuriers. On a des émetteurs qui étaient présents il y a déjà 10 ans, qui émettaient à des taux plus élevés que ça.
On a vu quand même effectivement qu'un jour, pas de panique, mais de fortes tensions au cœur de cette histoire bancaire. Et pourtant, depuis le déclenchement de la tempête, j'ai envie de dire, il y a eu une douzaine, je crois, quinzaine de séances. Et en gros, le SPI a perdu que 1%. Et quelques. Ça veut dire qu'en fait, la finance va en sortir indemne?
Hervé? En fait, est-ce que la finance en sort indemne? Aujourd'hui, on a été rassuré. On a été rassuré par la ligne de liquidité proposée par la Fed, d'autant plus qu'en termes de collatéraux, alors on entre un peu dans la technique, mais au lieu de les prendre à la valeur de marché, ce qui fait qu'ils vaudraient moins, on les a pris au pair. Donc le miracle de cette façon de regarder, de comptabiliser les titres obligataires pris comme collatéraux de la liquidité reçue par la Banque centrale, c'est que ça permettait d'avoir plus de liquidité. Donc ça a rassuré. Finalement, sur l'histoire des dépôts bancaires, de l'assurance des dépôts bancaires, vous savez que aux États-Unis, on assure un déposant que jusqu'à 250 000 dollars. Et puis, on a universalisé l'assurance pour Signature et puis la Silicon Valley Bank. Ça a rassuré en disant, ça sera le cas de tout le monde, donc on n'aura pas de fuite des dépôts. Sauf que, il y a eu des propos du ministre des Finances, Madame Yellen, qui ont été un peu contradictoires. Mais il y a eu des éléments très rassurants. Donc aujourd'hui, on se dit, pour le moment, ça va. So far, so good. Mais après, est-ce que c'est du définitif ou est-ce que c'est du provisoire? Je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut vraiment regarder le couple inflation-croissance, parce que la stabilité financière, finalement, et la tenue des marchés va vraiment dépendre de la façon dont ce couple va fonctionner. On peut avoir une opinion, mais ça ne tient que de l'opinion.
Alors, cette finance, il va sortir indemne ou pas?
La stabilité financière fait partie du mandat explicite des banques centrales aussi. Faut pas oublier qu'on est aussi en fin de trimestre. Il y a beaucoup de trades qui étaient très consensuels. Donc, fallait pas avoir de banque, fallait pas avoir d'immobilier, que des grosses capitalisations vs petites capitalisations.
Donc l'exposition était moindre.
Il y a un petit peu de réexposition de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que sur les banques, ça reste quand même fragile. Si on dit qu'elles vont moins avoir accès à des financements ou que les financements vont être plus élevés élevés, bah, ça va peser aussi sur, in fine, la rentabilité, parce qu'il va falloir réduire les enveloppes de crédit, il va falloir se battre pour attirer le plus de dépôts, donc pour attirer du dépôt, bah, faut les rémunérer plus, donc inévitablement, ça pèse sur la rentabilité, donc c'est vrai que c'est pas un business qui fait particulièrement rêver. Mais en tout cas, sur l'aspect bilanciel des entreprises, elles ont le temps de voir venir, bon, une certaine prudence, ça je pense que c'est évident, mais si on gagne un petit peu en visibilité monétaire, c'est-à-dire que si on arrête d'avoir tous les jours un banquier central qui nous tape sur la tête en disant qu'ils vont encore resserrer parce qu'il faut resserrer, bah, on y verra peut-être un petit peu plus clair.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faut en attendre de ces banques? Parce que bon, le hasard du calendrier a fait qu'elles ont dû prendre leur choix un peu sous pression, puisque c'était au cœur du début de cette tempête. On se rappelle, hein, la Banque Centrale Européenne a maintenu les 50 points de base qu'elle avait préannoncés. Du côté de la Fed, on a un peu ajusté le tir. On arrive vers la fin, là, ça y est, on voit même Casimir ce matin à la BCE qui dit « nous devrions poursuivre les hausses de taux à un rythme plus faible ».
Oui.
On s'approche vraiment du taux terminal partout ?
Moi, j'aurais envie de dire qu'on n'y est pas encore.
D'accord.
On n'y est pas encore parce que il me semble que dans la hiérarchie des objectifs, hein, l'inflation, la croissance, la stabilité financière, alors que ça soit explicite comme aux États-Unis ou plus implicite comme en Europe, c'est quand même l'inflation qui est le premier objectif. Et sur l'inflation, ben, on voit pas beaucoup de ralentissement, quoi. On voit du ralentissement grâce aux bienfaits d'un prix de l'énergie moins élevé. Mais si vous prenez les indices noyaux durs, hein, hors énergie, hors produits alimentaires, ben, au mieux, ça s'est stabilisé sur un plateau élevé, hein, au-delà de 5% aux États-Unis, ou alors ça continue d'accélérer en Europe. Et ça, je pense que pour une banque centrale, c'est embêtant. Alors, les banques centrales vont ralentir le rythme, ça, je le crois vraiment, à deux titres. D'abord, comme elles ont fait déjà un bon bout du chemin, elles veulent savoir ce que ça va donner. Mmh. Il y a toujours un décalage entre mouvement des taux et impact sur les prix. Et puis, tout est plus compliqué avec cette secousse dans le secteur bancaire qu'on a connu. Donc oui, elles vont faire les choses plus prudemment, mais je pense qu'elles vont continuer. Et il me semble que le marché a acheté vite une histoire qui est celle, avec ce qui s'est passé du côté des banques, on va avoir un ralentissement économique plus marqué qui va aider à avoir une inflation plus faible et qui va forcer les banques centrales à mettre les pouces. C'est un sacré pari parce que en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les taux des banques centrales vont baisser dès le second semestre aux États-Unis, dès le début de l'année prochaine en Europe. Tout ça me semble être un calendrier un peu rapide. Et j'en reviens, dans ce cas-là, à la volatilité sur les taux longs. Si le pari fait par le marché n'est pas confirmé par l'attitude des banques centrales, eh bien, on aura des remontées de taux longs qui feront peut-être mal. Et donc, je pense qu'il faut être prudent. On n'a pas de volatilité. Le marché a acheté de suite l'histoire la plus agréable, entre guillemets, parce que s'il faut passer par une situation économique un peu compliquée, c'est là où les questions de solvabilité vont apparaître, et ça, je suis pas sûr que le marché l'ait exactement bien pris en compte aussi, mais voilà quoi. L'histoire, elle est pas dite.
D'accord.
Et donc, il faut être attentif.
On s'approche du taux terminal ou pas?
Alors, aux États-Unis, oui.
Ouais.
Faut rappeler quand même que c'était l'objectif, hein, de refroidir la dynamique du crédit pour peser sur la croissance. Hein. C'est quand même le message qui nous a été martelé ces derniers mois par les banques centrales. Donc on y est quelque part. Bah, j'imagine.
Oui, parce que certains disent d'ailleurs toutes les histoires bancaires finalement agissent comme une étape
supplémentaire de
resserrement monétaire.
Une poursuite du resserrement monétaire. Donc encore une fois, je me répète par rapport à tout à l'heure, ce boulot-là est fait indirectement par le système bancaire. Le mouvement de désinflation est quand même plus ancré aux États-Unis. Il y a eu zéro commentaire hier sur les chiffres immobiliers qui ont été publiés aux États-Unis, mais on continue la décélération. Et dans certaines localités, notamment à l'ouest des États-Unis, ça décélère quand même assez fort. Vous allez me dire, c'est là où c'est le plus monté, d'accord. Mais enfin, en attendant, la dérivée première, elle est quand même très, très négative. En Europe, alors, On a eu l'effet boomerang avec retard, etc. Le problème, c'est que le comité gouverneur de la BCE est divisé en deux camps maintenant et que c'est de plus en plus palpable. Moi, j'ai peur à un moment donné que certains s'enferment dans une rhétorique où on va tous mourir guéris, hein, c'est-à-dire qu'on va tuer l'inflation, mais on aura aussi tué la croissance à la fin. J'espère qu'on arrivera à un consensus un peu plus fort pour justement, d'ici l'été, commencer un petit peu à calmer le jeu. Peut-être qu'on aura aussi matérialisation sur certaines données, avec la dynamique d'emploi qui commence à perdre de sa superbe aux États-Unis, et aussi une évolution des salaires de l'autre côté de l'Atlantique qui est en train de reculer un petit peu. Donc voilà, c'est des marqueurs auxquels on est vigilant et sur lesquels on espère gagner un petit peu en visibilité à l'approche de l'été.
Regard croisé ce matin entre Ronan Blanc et Hervé Gouletker. Merci messieurs d'avoir participé ce matin. Ronan pour Financière Arbevel, Hervé pour le cabinet Accuracy. Dans un instant, un petit détour par les marchés, graphiquement, techniquement, et puis petit point pratique aussi, la saison de la déclaration de revenus 2022 est en train de chauffer, de battre son plein, d'approcher à grands pas comme vous voulez. Et on a désormais quelques dates. 13 avril pour l'ouverture du service de déclaration en ligne. Ensuite, vous le savez, les clôtures s'échelonnent en fonction de vos départements. Et puis, si vous n'êtes pas concerné par la déclaration en ligne, date limite le 22 mai inclus, cachet de la poste faisant foi, comme le veut la coutume.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Il nous reste une demi-heure à passer ensemble pour continuer à vous offrir un maximum d'expertise pour gérer au mieux vos placements. Et chaque demi-heure débute, vous le savez, par un petit tour sur les marchés pour vivre au rythme des échanges à la Bourse de Paris. Et c'est Gilles Santacreux qui nous attend chez boursicoté.com. Que se dire ce matin ? La hausse semble, pour le moment, assurée, Gilles ?
Assuré, peut-être pas, mais on peut dire effectivement que ça commence à prendre. On avait une zone de résistance intraday qui était significative depuis mardi dernier, à 7160 points. Au moment du match des traders, tout à l'heure, on était en train de commencer à tester cette zone. On a eu un petit retour et là, on est en train de confirmer la cassure. Donc, ça nous place dans une bonne perspective qui pourrait nous ramener donc sur la zone majeure entre 7190 et 7200 points. Ça sera vraiment là le test. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une petite conviction haussière. Il y a un petit peu de volume, mais c'est pas non plus exceptionnel. On n'a pas une super grosse conviction. Mais par contre, si on parvient à casser cette zone 7190-7200, là, clairement, on reviendra dans la zone d'évolution qui, d'un point de vue moyen terme, pourrait nous ouvrir la porte vers un retour sur les plus hauts du CAC 40. Donc, il va falloir rester vigilant par rapport à ça. La conviction, encore une fois, reste assez moyenne. Au niveau de mes algorithmes, on a toujours une certaine fragilité qui domine, hein, puisqu'on a toujours une probabilité qui est plus orientée à la baisse qu'à la hausse. On verra un petit peu ce soir si ça évolue. Mais pour l'instant, c'est vrai que même quand on regarde les titres, hein, tout à l'heure, je vous parlais de ce côté homogène dans l'évolution des titres qui composent l'indice. On a ST Micro qui surnage, mais derrière, c'est vrai que ça reste assez homogène. On n'a plus que deux ou trois valeurs dans le rouge. Donc, c'est une hausse assez générale. Donc, les niveaux sont toujours les mêmes. On a donc 7110. Hein, tant que cette zone n'est pas cassée, on peut privilégier j'ai un biais plutôt haussier et une attente autour bien des chiffres qui seront dévoilés demain pour le PIB US et vendredi pour le PCE. Cet après-midi, on aura des chiffres de l'immobilier du côté des États-Unis. Pour ceux qui suivent les matières premières, on aura les stocks hebdomadaires de pétrole. Au niveau des paires de devises, ce qui est intéressant, c'est le retour du dollar index sous la zone des 103, ce qui favorise un petit peu la remontée de la paire de devises euro-dollar. On a cassé une zone intermédiaire à 1,0780 qui pourrait nous ouvrir la porte à un retour sur 1,0925. Donc, on continue sur un biais haussier qui n'est certes pas très puissant, mais qui se joue en tout cas dans la continuité. L'or oscille autour d'une zone majeure des 1960 dollars l'once. On peut noter aussi le retour du Brent qui est en train de revenir au-delà des 77,50 et qui pourrait nous donner un signal de sortie d'une dynamique qui était baissière jusqu'à présent. tous ces éléments font que on est en train de sortir un petit peu d'une zone où l'inquiétude prédominait. C'est à confirmer puisque, comme je l'indiquais, la conviction n'est pas encore très forte, mais en tout cas, on est peut-être sur le bon chemin.
Merci beaucoup Gilles Santacreux, donc boursecoté.com, qui nous accompagne régulièrement. Le CAC 40 lui est à 7178 points. Il progresse d'un 27%. L'eurodoll 1,0845. Voilà donc quelques idées à avoir sur ces questions d'indices. Merci beaucoup Gilles. Bonne séance. Tout de suite, matière à réflexion.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Matière à réflexion qui accueille ce matin Natalia Repko. Bonjour Natalia.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Ascensia Business School. On va s'intéresser ensemble au marché du diamant. Et on va être très clair et rappeler l'opinion de l'AMF qui attire l'attention des investisseurs sur les placements dans les diamants, placements qui peuvent paraître très attractifs. Ils sont souvent présentés comme valeurs refuge, ils promettent des rendements exceptionnels, mais en réalité, ils restent très risqués, mieux vaut donc ne pas y aller. Les acteurs qui proposent ceci souvent en France ne sont pas en conformité avec la loi, nous dit le gendarme de la Bourse, qui rappelle qu'il publie une liste noire de ces sites qui proposent des diamants d'investissement. Ça ne nous empêche pas quand même de parler du marché du diamant, parce qu'il n'y a pas que le diamant d'investissement, on peut aussi avoir le plaisir d'offrir des diamants où il y a des diamants pour l'industrie. Alors comment, Natalia, se porte le marché du diamant?
Alors, le marché du diamant a bien résisté la pandémie. On va dire que, en fait, ce produit a résisté mieux la pandémie que tous les produits de luxe. Donc, cela veut dire que, par exemple, le géant russe Alrosa a enregistré en 2021 une performance historique jamais vue d'auparavant. Cela veut dire que ses ventes ont augmenté de 50%. La même chose pour son concurrent de Beers. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le marché va très bien, mais on est encore en pleine crise.
Oui, mais le contexte est quand même compliqué. Quel avenir attend le marché du diamant, d'après vos informations?
Alors, si on veut comprendre l'état actuel de ce marché, compliqué mais très attirant, donc il faut revenir en arrière d'un an et au début du conflit russo-ukrainien. Le 11 mars 2022, cela veut dire qu'il y a un an, le président Joe Biden a signé un ordre exécutif interdisant les importations de diamants russes non industriels. Cela veut dire que cette société Alrosa, qui fait partie des grands producteurs de diamants, a perdu en fait sa place. Et bien sûr, l'offre mondiale a été bien affectée.
Au cœur des sanctions, finalement.
Exactement. De plus, en raison de faibles données de vente de diamants aux États-Unis, le premier marché est en Chine. Les experts prévoient qu'il y aura une baisse des prix en fait cette année, mais avec la possibilité qu'il y aura une reprise de la croissance des prix au second semestre en fait de cette année.
Donc ça veut dire que l'offre réduite va affecter le marché?
Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Comment cette offre réduite va affecter le marché? C'est que cela peut en fait faire un changement dans le marché de diamants. Quel changement? On parle des diamants synthétiques.
Ah,
oui. Alors, en ce qui concerne les diamants synthétiques, rien n'est simple non plus. Les diamants de laboratoire non déclarés existent sur le marché. C'est un gros problème. Donc, lorsque nous regardons d'autres secteurs, en fait, qui peuvent avoir les mêmes soucis, il y a une tendance. La technologie s'améliore, mais aussi la technologie de détection se rattrape. Aujourd'hui, en ce qui concerne les diamants synthétiques, nous sommes dans l'entre-deux.
Ça veut dire que les diamants synthétiques vont prendre le relais?
Alors,
ou peuvent prendre le relais, je sais pas.
On verra. Le prix d'un diamant synthétique de 3 carats a perdu presque la moitié entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2023.
La moitié de sa valeur.
Certains détaillants aujourd'hui hésitent de plus en plus à vendre des diamants synthétiques car leur prix continue de baisser. Donc, ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant. Mm-hmm. Par exemple, la chaîne Pandora a noté que sa gamme de diamants synthétiques, lancée en Amérique du Nord en 2023, a attiré plus de clients. Mais il s'agit quand même de la marque ça veut dire que démocrate, ce n'est pas vraiment du marché
haut de gamme. Oui, ce n'est pas du haut de gamme, oui.
Exactement. Cela veut dire que les chaînes comme Pandora, progressivement, vont acheter de plus en plus des diamants synthétiques, mais cela veut dire que les diamants synthétiques vont prendre de la valeur.
Si on revient aux diamants naturels, puisqu'on voit bien qu'il y a une différence entre les deux, quels sont les critères les plus importants pour les acteurs du marché?
Alors, on peut nommer 4 critères d'appréciation. Bien sûr, la masse de la pierre précieuse est évidemment déterminante. Après, la forme du diamant. Donc, il y a 5 groupes utilisés. Après, la couleur, qui permet de définir aussi la qualité du diamant. Il y a 9 classes pour les diamants en couleur. Il y a 5 classes pour les diamants colorés. Et enfin, bien sûr, la propreté du diamant définit la pureté de la gemme. Par exemple, on peut avoir une gemme en diamant quasi pur et on peut avoir aussi avec des inclusions qui sont visibles. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois ce tri effectué, les lots sont constitués selon les tendances du marché et aussi selon les recommandations ou souhaits exprimés par les acheteurs. Et la présentation de ces lots, en fait, a lieu 10 fois par an.
Ah oui?
Tout à fait. Donc, ce n'est pas une fois par an. La vue principale a lieu à Londres et 2 autres sont organisées à Kimberley, c'est en Afrique du Sud, et en Lucerne, en Suisse.
Et qui achète? Enfin, qui est le consommateur final?
Alors, c'est très intéressant comme information parce qu'on ne s'entend pas du tout à ça, mais c'est la génération Z. Ce sont des homères qui suivent, en fait, avec la génération Y, bien sûr. Mais la génération Z accorde une grande importance à la marque. Et ils sont beaucoup plus intéressés par l'impact social des produits que les générations précédentes. Donc, ça, c'est
pour le public ciblé. Ouais. Quelle tendance on peut observer cette année sur ce marché du diamant?
Ça, c'est aussi très intéressant et ça va à peu près avec la mode d'aujourd'hui. Donc, le marché du diamant s'attend à une augmentation de la transparence des approvisionnements en raison de l'amélioration de la qualité du mécanisme de suivi des pierres. Parce que les acheteurs et les consommateurs s'intéressent aujourd'hui à leur biographie. Ils veulent savoir d'où ça vient. Les fournisseurs aujourd'hui adoptent les technologies beaucoup plus modernes comme la blockchain, qui peut, ça veut dire que aider à tracer le chemin d'un produit jusqu'à sa destination. Et de telles initiatives, bien sûr, aideront à résoudre les problèmes éthiques. Le marché connaît beaucoup de problèmes éthiques.
Alors, justement, si on veut acheter un diamant aujourd'hui, est-ce que c'est toujours intéressant?
Oui, c'est toujours intéressant, mais ce marché, comme vous l'avez dit, Cédric, au début, cache beaucoup de points négatifs. Donc, il est estimé qu'au niveau mondial, en fait, on détient un demi-milliard de carats de diamants. Ça veut dire qu'investir dans le diamant n'est donc rare, tandis qu'on pense le contraire.
Oui, c'est ça. C'est pas si rare que ça, finalement.
Exactement. Contrairement à la valeur de l'or, celle du diamant est très difficile à estimer parce que la couleur, la structure du cristal, la taille sont des critères, bien sûr, très importants, mais au-delà de frais de production. Et avec tout ça, ça devient assez compliqué. Parce que le prix du diamant et les secteurs qui sont très associés ne sont pas très stables. Cela veut dire que le marché peut afficher une volatilité qui peut être assez importante, comme en 2008, en 2009, en 2010. Et également, c'est un marché peu liquide.
Oui.
Bien sûr, on va quand même dire qu'il y a des poids positifs. Par exemple, contrairement au pétrole, les diamants sont beaucoup plus faciles à transporter.
C'est moins salissant. Hein.
Exactement. Mais les ventes et les prix des diamants ont toujours corrélé au PIB mondial. Il ne faut pas oublier.
Bon, on commence par où si on veut s'intéresser, malgré les avertissements, entre guillemets, à ce marché?
Alors, le seuil minimum pour investir dans les diamants s'élève à 20 000 $. Alors, le retour sur investissement, si on investit bien, si on a cette chance, bien sûr, peut atteindre 4-6% par an. C'est pas mauvais, mais avec tous ces risques quand même.
Ça,
Le principal poids de référence pour le commerce de gros de diamants en couleur dans le monde est le barème Rapoport. Et si un investisseur privé veut s'intéresser et surveiller la dynamique à long terme, il faut regarder le mouvement de l'indice qui s'appelle Rapoport Price Index.
Eh bien, voilà quelques clés. Et on vous rappelle, malgré tout, les avertissements de l'AMF. Hein, et notamment, si vous êtes démarché, il y a une liste noire qui est disponible sur le site de l'AMF. L'AMF qui rappelle que les acteurs qui vous proposent aujourd'hui en France du diamant d'investissement ne sont pas en conformité avec la loi. Merci, Natalia. Natalia Riabko, qui nous accompagne régulièrement sur ces questions de matières premières. Le CAC 40, lui, progresse d'un 35%, 7184 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Deux de nos gérants sont en ligne avec nous. Thibaut François depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Et François Chollet depuis Montségur. Bonjour François.
Bonjour Cédric, bonjour Thibaut, bonjour à tous.
Merci à tous les deux d'être en ligne. Toujours un peu délicat de circuler ces jours-ci. Donc voilà, petite exception à vos présences en plateau. Et on vous remercie tout de même d'être présents. Quel regard vous portez sur notre tendance boursière? Je prenais tout à l'heure dans Regard Croisé l'exemple du SPI 500 qui finalement n'a que très peu été impacté par cette tempête bancaire. Vous êtes relativement confiant l'un l'autre. Je sais pas qui veut commencer, Thibaut, peut-être ?
Bah écoutez, ça se calme un petit peu du côté des banques, donc le marché respire tranquillement. On prend encore 1%, un peu plus d'1% maintenant sur le CAC 40, donc c'est plutôt bien. Alors on retrouve pas une pleine confiance sur l'ensemble du secteur bancaire et sur certaines banques en particulier, mais en tout cas. Parce que ça va prendre du temps, ce retour de la confiance. Mais en tout cas, il y a du mieux. On sent bien que on va dire que la Fed, la BCE ont pris les choses en main, que les fonds propres de la plupart des grandes banques américaines et les grandes banques européennes sont plutôt solides. Donc le risque systémique semble écarté. Et donc on repart un petit peu à la hausse. On repaye un petit peu le marché aujourd'hui sur l'ensemble des valeurs du CAC 40. Et je pense que on a encore pas mal de potentiel sur l'ensemble du marché pour les prochaines semaines.
Voilà donc votre regard, Thibaut. François, pareil, un peu soulagé par cette finance finalement épargnée.
Oui, alors c'est vrai que les nouvelles ne sont pas très bonnes depuis effectivement les annonces aux États-Unis. On a eu encore hier des perquisitions assez massives qui ont été annoncées dans 5 banques en France. Et il n'en fallait pas plus, hein, la coupe était déjà pleine, on perd sur le mois quasiment 30% sur Société Générale, ça a été des parcours à peu près identiques sur l'ensemble des banques du secteur en Europe. Ça a été sans doute une réaction exagérée, mais il est clair que la confiance n'est pas revenue totalement à ce stade, et on voit bien aussi que la façon dont on a traité la valorisation de Crédit Suisse dans son rapprochement forcé avec UBS, signifie qu'il est difficile, en cas de bank run, de trouver une vraie valeur aux actifs bancaires. Et c'est, je pense, quelque chose qui va peser encore quelques temps sur le secteur en Europe. Pourtant, secteur qui n'avait pas démérité, puisque les publications de résultats avaient été assez records. Alors peut-être que c'est les résultats, effectivement, du premier trimestre 2023 qui ramèneront un petit peu la paix et le calme sur le secteur bancaire européen. En tout cas, moi, je pense que c'est le retour au diapason des profits qui montrera que le premier trimestre 2023 est de bonne facture pour le secteur et peut-être rassurera d'abord les clients, puisque une des origines, c'était le manque de liquidité, et puis les investisseurs. Encore une fois, les parcours récents sur le secteur bancaire sont quand même assez traumatisants. Quasiment 30% de performance négative sur le mois, c'est quand même lourd sur un titre comme Société Générale.
Voilà donc le sentiment général. Maintenant, si on ouvre la sélection, Thibaut, comment la voyez-vous évoluer? C'est vrai qu'on reste collé à l'indice, hein, à un Pouillet près, mais il y a quelques dossiers quand même qui décalent. Et on a pas mal d'auditeurs qui nous interrogent sur GTT, qui nous interrogent sur ALD. Enfin voilà, comment est-ce que vous voyez la sélection évoluer?
Bah écoutez, sur ALD et sur GTT, c'est assez simple, notamment sur ALD, c'est-à-dire que il y a eu une grosse opération qui a été réalisée, une grosse opération de croissance externe, et depuis d'ici la fin du mois, donc dans les prochains jours, il devrait annoncer on va dire un plan et les synergies qui sont attendues sur le plan de développement sur la croissance externe. Le titre a beaucoup baissé ces dernières semaines avec l'ensemble du secteur bancaire. Il faut rappeler que ALD est une filiale de la Société Générale. François vient d'expliquer que la Société Générale a perdu pratiquement 30% sur le mois. On est à presque 20% de baisse sur le mois pour ALD. Je pense que ce sont des conditions formidables pour entrer dans le dossier ALD. Les synergies vont être assez importantes sur la croissance externe qu'ils viennent de réaliser. Les perspectives sont excellentes. D'accord. Sur le dossier, et donc aujourd'hui ça nous permet de rentrer dans de très bonnes conditions. Bon. sur un secteur qui, à mon avis, est mal valorisé aujourd'hui, notamment sur ALD.
François, peut-être un petit mot sur GTT qui dénote un peu selon pas mal de d'épargnants qui nous suivent.
Oui, alors GTT, faut pas se tromper, on a un carnet de commandes qui est extrêmement bien rempli, qui vient encore d'être augmenté par une commande de la part du chantier naval coréen Samsung pour concevoir évidemment les cuves d'une unité de production et de liquéfaction de GNL, c'est-à-dire le gaz liquéfié qui est le cœur de métier de GTT et qui est toujours promis à un bel avenir puisque les échanges de gaz liquéfié vont se multiplier au fur et à mesure dans le temps pour essayer de compenser diverses difficultés d'approvisionnement. Donc aucun sujet de fond sur GTT, simplement c'est un titre qui est parfois un peu corrélé au segment pétrolier et qui peut souffrir lorsque le baril... et puis honnêtement c'est une valeur moyenne, donc on a une désaffection des valeurs moyennes dans les phases de repli des marchés ou d'inquiétude. Ça peut expliquer une bonne partie du recul. Beaucoup de visibilité, on est très confiant sur le dossier, les valorisations sont raisonnables et surtout on a un carnet de commandes qui donne de la visibilité à plusieurs années. Donc aucun problème de fond à avoir GTT en portefeuille et là aussi c'est une belle occasion de la rentrer sur ce niveau de cours vers 90-92 euros. Ça me paraît intelligent.
Bon, deux avis sur deux titres qui intéressent pas mal les épargnants qui nous suivent. Pour ceux qui n'auraient pas encore répliqué le portefeuille, peut-être des points d'entrée. Merci beaucoup à tous les deux pour ce coup d'œil sur la sélection cette semaine. Thibaut François, Fastea Capital, et François Chollet depuis Montségur Finance. Dans un instant, 90 minutes business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui?
On va parler du dossier Atos, les discussions entre Atos et Airbus. Ça se tend, le titre Atos a perdu beaucoup ce matin, plus de 15%. Les discussions concernent, vous le savez, la branche cybersécurité d'Atos. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ces dernières heures? On va en parler dans le journal avec Mathieu Pecheberti. Notre invité du jour, ce sera le dirigeant du groupe Jarnias. Ce sont des cordistes qui s'occupent de Notre-Dame, de la Tour Eiffel, du Mont-Blanc. Une très grosse entreprise, un gros groupe aujourd'hui du BTP qui sera notre invité. C'est Xavier Rodriguez qui sera sur ce plateau. Et puis on fera un débat sur les prêts immobiliers avec le nouveau taux d'usure hier. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on commence à voir les effets ou finalement est-ce qu'on donne moins de prêts immo? On posera la question à Marie-Cœur de Roy et Bérangère Dubus. Ce sera à 12h45 dans le débat.
À suivre dans un instant et nous on se retrouve bien évidemment demain à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.